sur Nove FM. Emmanuel Achard, mes oreilles, le retour évidemment pour les rendez-vous de midi.
Et oui, c'est un rendez-vous de midi plein de curiosité, d'admiration aujourd'hui, hein, après une formidable expérience et expédition qu'a menée et vécu notre invité. C'est Amaury Guérin à bord de son voilier. Je vais arriver, hein, on est lundi, ça repart. Pile ourson. Amaury a atteint le cercle polaire en solitaire lors d'une extraordinaire aventure humaine et scientifique et sportive, hein, de belles traversées en mer. On accueille aujourd'hui en direct Amaury Guérin, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors moi j'ai plein de questions évidemment à vous poser sur cette expédition qui a duré 3 mois, mais on va déjà vous présenter. Enfant du pays, vous avez 20 ans et au moment de votre voyage, vous aviez déjà 20 ans. C'était au printemps, enfin début de l'été. C'est vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie que vous grandissez, que vous découvrez la voile?
C'est ça, exactement. Donc j'ai appris à naviguer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai fait mes premiers entraînements en optimiste, donc les tout petits bateaux sur lesquels on débute la voile à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis ensuite, je suis entré au Team Vendée Formation où j'ai pu apprendre la course au large sur des bateaux un peu plus grands.
Ouais, les amateurs de voile connaissent votre nom. Hein. Tout très jeune, vous commencez la compétition sur optimiste?
C'est ça, vers aux alentours de 8-9 ans, les compétitions d'optimiste en Vendée. Hein. Et puis ensuite, au niveau régional et puis national.
Vous avez eu des beaux titres, peut-être?
Non, pas spécialement.
Pas de titres, des beaux résultats?
Bah, j'ai fait plusieurs années au niveau national, mais jamais de podium.
En tout cas. Bon, en tout cas, c'est une histoire de famille, la voile. Hein.
Alors oui, c'est une histoire de famille. Au début, pas du tout. J'étais le seul de la famille à vouloir naviguer. Et mes parents, en fait, à l'origine, ont beaucoup voyagé. Hein. Et donc, on habitait dans le Nord. Et c'était pas du tout un endroit pour faire de la voile. Et c'est vraiment moi qui voulais faire de la voile. Et donc ils ont fini par m'inscrire dans un club de voile pour avoir la paix. Et au fur et à mesure, ma sœur, qu'on avait marre de tourner autour du plan d'eau, s'est inscrite aussi. Mon petit frère aussi. Et puis mes parents ont bien été forcés de s'y mettre aussi par la suite.
Ah, c'est vous qui avez impulsé donc cette passion pour tout le monde.
C'est ça. Et puis maintenant, ils sont à fond aussi. Donc c'est génial.
Avec votre propre bateau familial aussi. Pile ourson, voilà, ça fait partie de la famille.
C'est ça. Voilà, c'est le sixième membre de la famille Pile ourson. C'est un bateau qui est dans la famille depuis 7 ans et puis j'ai vraiment appris à naviguer dessus. C'est sur ce bateau que j'ai fait mes premières navigations en solitaire, mes premières nuits en mer en solitaire, donc j'ai appris beaucoup sur ce bateau.
Donc la famille soutient votre passion, on comprend bien ça.
J'ai de la chance.
Alors vous l'avez évoqué, vous avez intégré le Team Vendée Formation, voilà, c'est important pour un jeune skipper avec en tête l'objectif de faire de la course au large.
C'est ça, exactement. Enfin, c'est génial pour apprendre toutes les bases de la course au large. À monter un projet, à préparer un bateau. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir des bases pour l'expédition Plancton de Pile-Ourson.
J'imagine. Ça commence en 2018, le Team Vendée Formation. Vous y restez combien de temps?
Alors, je suis rentré un peu avant.
Je suis rentré
dès 2016. J'étais vraiment
très jeune.
J'avais 14 ans, je crois, à ce moment-là. Et puis, ça s'est terminé en 2021 avec une saison en mini 650.
D'accord, et pourquoi pas peut-être un retour un jour un peu plus tard, je sais pas si vous y
pensez. Ça peut faire partie des projets. Pour l'instant, je rentre de l'expédition et il faut que.
Faut atterrir, digérer.
Voilà, c'est ça, digérer ce qui vient de se passer.
Alors, parallèlement, vous poursuivez des études avec un double cursus. Aujourd'hui, vous êtes en école d'ingénieur, un double cursus plutôt ambitieux.
Alors, c'est un double cursus entre l'INSA, qui est une école d'ingénieur, et puis Sciences Po Rennes. Donc, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment les deux aspects simultanément et on s'ennuie jamais dans ce genre de cursus.
J'imagine bien, beaucoup d'heures de cours.
C'est ça, et puis du travail aussi à côté, hein. Mais ça me laisse assez de temps pour naviguer à côté, donc c'est top.
Donc on vous retrouve à Rennes, étudiant, et c'est dans le cadre de ces études, si j'ai bien compris, que vous avez rencontré des scientifiques qui ont lancé un programme nommé Plancton Planète. Ces chercheurs ont créé une boîte à outils pour permettre à un grand nombre en fait, de participer en mer à des collectes de plancton.
Alors c'est ça, en fait, je les ai contactés, Plancton
Planète. C'est vous qui les avez contactés, ouais.
C'est moi qui ai été vers eux. Parce que je cherchais un moyen de redonner du sens à la navigation. C'est-à-dire que je faisais des courses, mais je cherchais voilà, quelque chose, un but derrière tout ça. Et donc c'est comme ça que cette idée d'expédition a germé dans ma tête. Et quand j'ai découvert leur concept, qui est en fait de faire en sorte que chacun puisse devenir un acteur de la recherche sur le plancton, que le plaisancier, le pêcheur, la marine marchande, la marine nationale, que tout le monde puisse contribuer à la recherche sur le plancton. J'ai trouvé ce concept vraiment génial, je les ai contactés. Et ça tombait plutôt bien parce que eux, de leur côté, ils cherchaient à ce moment-là quelqu'un pour tester leurs outils, en fait. Parce qu'ils développent des outils de collecte et d'analyse de plancton. Et pour l'instant, ces outils avaient principalement été testés par des scientifiques. Et donc, le but de cette expédition, c'était d'exploiter le néophyte que je suis pour tester ces outils-là et des, voilà, voir un peu les, comment réagissait quelqu'un qui, à l'origine, ne connaissait pas du tout le plancton avec ses outils en main.
Vous êtes presque devenu un spécialiste. Alors pourquoi cette recherche sur le plancton en particulier ? On sait que c'est un organisme qui est fondamental à la vie sur la planète. Vous avez appris beaucoup de choses, vous, avant et pendant l'expédition, j'imagine.
Alors j'ai appris beaucoup de choses. Effectivement, le plancton, c'est une richesse phénoménale et qui est vraiment complètement méconnue jusque-là. On commence juste à s'y intéresser. Et alors le plancton, il faut savoir que toute la vie est issue du plancton, la vie est sortie de la mer, mais aussi tout l'oxygène qu'on respire aujourd'hui, 98% de l'oxygène qui est dans ce studio a été produit par le plancton auparavant, et il continue toujours à produire à peu près 50% de l'oxygène sur Terre. Il absorbe aussi beaucoup du CO2 que nous émettons, et il est à la base de toute la chaîne alimentaire marine aussi. Donc c'est vraiment un rôle totalement clé, et il est encore vraiment méconnu.
Et donc pendant toute l'expédition, vous avez donc collecté du plancton, vous l'avez aussi analysé vous-même en mer ?
Alors je l'ai aussi analysé, en fait j'avais un filet à plancton, donc je le mettais à l'eau à l'arrière du bateau, je le tractais pendant une vingtaine de minutes, et à la fin je collectais un échantillon d'eau très concentré en plancton, que j'allais analyser dans un microscope spécialement prévu pour analyser le plancton, le planctoscope, développé par Plankton Planet, qui en fait fait passer cet échantillon d'eau très concentré en plancton devant un objectif. Et l'objectif va, enfin, devant une caméra qui va prendre des images de plancton.
Oui, parce que à l'œil nu, vous le voyez quand vous naviguez.
Alors justement, le plancton, faut savoir que c'est tous les organismes qui se le laissent dériver au gré des courants. Donc ça va de la méduse au virus.
Oui, en fait,
donc,
c'est plein de, c'est à la fois du végétal, de l'animal, plein de petites choses.
C'est ça, c'est une diversité absolument énorme. C'est pas juste des petites crevettes.
Oui, c'est ça.
Il y a vraiment une diversité phénoménale au niveau du plancton. Il y a plusieurs centaines de millions d'espèces différentes de plancton. Et encore, on est loin d'avoir tout découvert. Et c'est aussi magnifique à regarder, le plancton.
Bah, on va voir comment vous avez vu tout cela. Donc l'expédition, c'est votre idée. Le voilier, on l'a vu, c'est pile ourson, propriété de la famille, vous partez avec. Il fallait quand même définir la trajectoire de l'expédition. Qui a eu l'idée de vous envoyer au cercle polaire ? C'est une demande scientifique ou c'était votre idée ?
Alors je me suis auto-envoyé.
D'accord, c'est vous.
Je me suis auto-envoyé parce que en fait, je cherchais un parcours qui sortent un peu des parcours classiques, par exemple du Tour de l'Atlantique où on traverse par les Élysées. Je cherchais quelque chose qui vienne un peu faire un vrai challenge en navigation. Et donc pour ça, le cercle polaire était vraiment idéal parce que c'est à la fois c'est magnifique, il y a des paysages magnifiques, on voit le soleil de minuit, et en même temps c'est un environnement qui est très hostile. On est dans les mers nordiques, la mer peut être très dure, il y a les dépressions qui passent. Et donc c'était un vrai challenge au niveau navigation, ce parcours.
Oui, si j'ai bien compris, vous partez quasiment en même temps que les IMOCA qui sont dans la Vendée Arctique. Ils vont faire demi-tour à cause de la météo. Et vous, vous continuez en fait.
Alors c'est un peu l'idée. En fait, oui, on est parti quasiment en même temps le même week-end. Ils m'ont rapidement doublé.
Mais oui, mais vous avez vu ou pas ? Est-ce que vous en avez
vu ? Je ne les ai pas vus en fait parce qu'ils sont passés plus au large. Et moi, j'étais le long de au niveau de la Manche, plutôt côté est, et eux sont passés vraiment à l'ouest.
Mais vous suiviez évidemment la course.
Du coup, j'avais quelques nouvelles, mais j'avais peu de moyens de communication en mer, donc c'était compliqué pour moi de savoir où ils étaient. Je savais qu'ils allaient me doubler par l'ouest, mais j'en savais pas beaucoup plus.
Et donc, eux, ils ont pris une grosse dépression. Et on se rappelle, hein, la vie de course, ils ont dû faire demi-tour. Ils sont pas allés aussi loin que vous.
Alors, c'est ça, ils ont dû faire demi-tour avant le cercle polaire.
Oui.
Parce que c'était voilà, pour éviter de casser les bateaux ou les marins. Et dans le cas de Pilourson, Pilourson a cassé un peu à ce moment-là, en fait. Parce que dans la dépression qui a causé l'annulation de la Vendée Arctique, eh bien, la baume du bateau s'est brisée en deux. Et donc, ça a forcé à m'arrêter. Le gros de la dépression est passé et je suis reparti par la suite pour aller jusqu'au cercle polaire.
On pourrait dire que vous êtes passé, vous, alors que tout le monde faisait demi-tour. Il y a eu cette casse, on va en reparler. Petite pause en Irlande pour réparer. Mais quand même, c'est assez rigolo de se dire qu'en même temps que vous, il y avait effectivement cette course importante pour les voiliers du Vendée Globe. Pour partir aussi, il vous faut des partenaires, une équipe qui prépare le bateau. Là, il a fallu construire tout ça.
Alors voilà, c'est ça, c'est une partie que j'ai vraiment appréciée en ce projet, c'est que c'est un projet complètement local au niveau des partenaires et de l'équipe qui m'a aidé à préparer le bateau. Donc j'ai pu compter vraiment sur des bénévoles qui étaient super motivés par le projet pour être presque tous les jours sur le bateau à m'aider à le préparer et tout ça, parce qu'à côté j'avais aussi mes cours qui continuaient, donc je pouvais pas être tout le temps présent. Et donc ça, c'était vraiment une partie au niveau humain qui était géniale. Et j'ai aussi pu compter sur des partenaires locaux qui étaient tous du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc là, il y a aussi une belle histoire qui s'est mise en place avec eux, avec un vrai lien qui s'est créé.
On vous a beaucoup suivi, en tout cas, ils vous ont beaucoup suivi, hein, notamment sur les réseaux. Vous êtes donc parti au mois de juin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, direction le cercle polaire, la Norvège, des îles sublimissimes, qu'on ne connaît pas du tout, je crois, pour la plupart d'entre nous. Et vous avez partagé votre expérience, hein, sur les réseaux, des images absolument fabuleuses, notamment en mer et sur terre, à partir d'un drone que vous avez utilisé. Et alors, on va parler de tout ça dans quelques minutes.
Juste après Vianney et Chiran, voici Call Me sur Nove.
Même avec les gens qui font peur, ils sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Let it be over. Every high, every low, they will come and they go. To feel alive, you gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me more. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a rightness, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude.
Run pas mal du tout. Un autre duo également ce midi dans les rendez-vous de midi. Emmanuel Achard-Mézerette, votre invité.
Oui, c'est le duo Amaury Guérin et l'ourson. On accueille aujourd'hui donc le jeune skipper qui a vécu une formidable aventure humaine, marine, scientifique, à bord de son voilier Pilourson depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au départ, c'était le 11 juin. Première nuit en mer, Amaury, plutôt difficile, vous le racontez. D'ailleurs, il y a un petit journal de bord, hein, qu'on peut retrouver sur notamment Facebook, Instagram, etc. En tout cas, Facebook. Un bon mal de mer, hein, première nuit, ça commence mal.
Exactement, mais il faut le dire, hein, c'est quasiment tous les marins le mal de mer. Hein. Et ouais, faut pas avoir honte de le dire. Voilà. Faut pas avoir honte de le dire, c'est normal en fait. C'est le temps de s'amariner, que notre cerveau s'habitue au mouvement permanent. Et au bout de 2-3 jours, enfin pour moi, au bout de 2-3 jours,
ah, oui,
ça passe et je peux à nouveau descendre à l'intérieur du bateau, faire des choses sans regarder l'horizon.
2-3 jours de mal de mer, hein, déjà ça c'est très courageux, moi je trouve. Vous nous avez donc tout raconté sur les réseaux. Vous avez donné beaucoup de nouvelles, c'était important pour vous de partager.
Ouais, le partage, enfin dans cette expédition, pour moi le partage c'était vraiment important et c'est une partie où j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors à la fois en mer à raconter ce qui se passait, mais aussi avant le départ, notamment par exemple il y a eu des portes ouvertes organisées. Ça c'était génial parce que enfin on a pu accueillir quasiment 200 personnes qui ont pu voir du plancton, découvrir le plancton, visiter le bateau, descendre dans le bateau. Et enfin, je trouve ça fantastique de partager ça avec des gens de toutes les générations. Et enfin, c'était vraiment une partie hyper importante pour moi dans l'expédition.
On sent tout l'enthousiasme. Vous nous avez gâtés. Alors, avec ces récits qui sont très vivants, très animés, vous écrivez bien. Hein. Et puis ces photos, ces vidéos avec un drone, c'est absolument fabuleux. On voit donc ce paysage incroyable, le voilier en pleine mer, en solitaire, des rencontres, hein, les dauphins qui naviguent, qui naviguent à côté de vous. Vous avez pu vivre plein de moments et vous les avez aussi partagés.
Exactement, mais c'est vrai que enfin, sur 3 mois, il y a des moments fantastiques au niveau de la faune et de la flore marine. Enfin, on vit des moments fantastiques.
Bon, les dauphins, certes, mais pas que.
Alors, j'ai vu des dauphins, beaucoup de dauphins, surtout au sud des îles Shetland, donc jusqu'à l'Écosse. Après, ils ne montent pas plus nord.
C'est trop froid.
Et voilà, après, j'ai vu des phoques, pas mal de phoques. Par contre, petite déception, j'ai pas vu de baleine pendant les 3 mois.
Ah oui.
J'espérais en voir au nord de la Norvège, mais bon. Ce sera pour une prochaine
fois.
Et
les phoques sont venus à vous, il y a une scène incroyable, c'est une scène, hein, où vous êtes avec des palmes et ils viennent grignoter le bout des palmes dans l'eau.
C'est ça en fait, je suis arrivé dans une baie qui était quasiment déserte et il y a 2 petites têtes qui sont sorties de l'eau et c'était des phoques gris et à peine j'ai mis une palme dans l'eau qu'ils sont venus autour de moi. En fait, c'est des animaux qui sont extrêmement curieux. C'est comme, on peut considérer ça des chiots au niveau de la mentalité, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à jouer, hein, et donc ils vont chercher à mordiller le bout des palmes, hein, avec leur mâchoire. Sauf que c'est pas des chiots au niveau physique.
Vous savez que s'ils touchent vraiment plus loin, ça va faire mal.
Il vaut mieux avoir les palmes.
Voilà, c'est ça. Mais c'était très sympa. Et puis vous nous racontez, voilà, ces collectes très vite. D'ailleurs, dès les premiers jours, vous prélevez du plancton, vous avez collecté du plancton tout au long du parcours.
C'est ça. Donc quand j'étais en solitaire, à peu près tous les 2-3 jours, je faisais une collecte de plancton. Ça prenait assez longtemps parce que au début j'étais pas bien habitué bien rodé sur le protocole et en même temps quand on est en solitaire on doit gérer donc le plancton mais aussi la navigation autour, vérifier qu'il n'y a pas de cargo qui arrive, qu'on n'est pas en route de collision, il faut régler les voiles en même temps.
Plein de choses à faire.
Voilà, c'est ça. Il y a plein de choses à faire.
Et à un moment, vous parlez de la teinte, de l'eau qui change et vous vous posez la question, est-ce que c'est le plancton justement qui change aussi peut-être?
C'est ça, effectivement. Bah, en fonction des concentrations en plancton, on trouve des couleurs d'eau différentes et il y a un moment au nord de l'Écosse, en mer de Norvège, où l'eau était d'un bleu vraiment très profond et c'est quelque chose qu'on voit vraiment qu'au large. Et donc, j'étais un peu en émerveillement devant cette scène.
Et on peut voir des images, hein, de ces couleurs incroyables. Au programme aussi du voyage, ben, des petites et moyennes casses. Alors vous avez parlé de cette baume, c'est au bout de 5 jours, je crois, de la première semaine qui se brise. Vous prenez la direction de l'Irlande pour vous arrêter, pour réparer, hein, pas le choix. Et avant cela, vous racontez aussi cette nuit hyper agitée. Le sommeil est agité, ça vous rêvez, etc. Et puis à un moment donné, vous êtes vraiment réveillé par un cri, par un appel. Pryl Olson, c'est ça l'appel?
Alors exactement. En fait,
à la radio.
C'était un peu l'inconnu, la question du sommeil sur une expédition comme ça, parce qu'en solitaire, on peut pas faire comme à terre, aller dormir pendant 7 heures et se lever le lendemain matin. Il faut toujours garder à la fois un œil sur le bateau pour le régler, adapter la trajectoire, et sur les bateaux autour pour pas avoir de collision. C'est le principal danger en fait. En mer, le danger vient de l'homme.
Ouais, et puis vous êtes pas trop loin de la côte finalement.
C'est ça. Donc, l'expédition s'est beaucoup déroulée le long de la côte, ouais, quand je naviguais, donc c'était assez dangereux. Le danger venait de cette partie-là. Et donc au bout de 5 jours, c'est le moment où le sommeil commence à manquer. Parce que je peux pas dormir plus de 20 minutes en fait. Au-delà de 20 minutes, le risque c'est de rentrer en collision, qu'il y a un bateau qui était au-delà de l'horizon au moment où je suis couché, qui rentre en collision avec moi. Et 20 minutes c'est peu en fait finalement, même en enchaînant les siestes. Et je m'en suis rendu compte au bout de 5 jours parce que j'arrivais au sud de l'Irlande, à un endroit où il y a un fort trafic maritime. Et donc juste avant d'entrer dans ce fort trafic maritime, je me suis dit je vais refaire une dernière sieste de 20 minutes pour être en forme pour la nuit, parce que je sais que la nuit sera blanche. Et en fait, j'ai pas entendu mon réveil. Pourtant, c'est vraiment quelque chose à réveiller des morts.
Oui. En fait, c'était dans votre rêve, c'est ça?
Et en fait, voilà, c'est ça, dans mon rêve. Je rêvais qu'il y avait une sonnerie stridente qui était insupportable.
Mais qui vous réveillait pas.
Et qui me réveillait pas. J'étais sur ma banquette à dormir. Mm. Et quand je suis réveillé, ça m'avait j'étais à moitié sourd. J'avais des sifflements dans les oreilles. J'ai eu des sifflements plusieurs heures après. Ouais. Et en fait, quand je suis réveillé, il y avait un bateau, à la radio, la VHF, la radio du bord, qui m'appelait. Le bateau s'appelle Pilourson, en hommage au rocher de Pilours devant Saint-Gilles. Et du coup, en anglais, il disait ça, Pilourson, Pilourson. Et il se demandait ce que faisait ce bateau, arrêté au milieu de... Ah, le vent était tombé, donc je dérivais au milieu de la zone de trafic maritime.
Il m'a fait un petit peu peur.
Voilà, c'est ça.
Et c'était un paquebot, hein, c'était un gros...
Alors, il y a un paquebot, j'imagine, parce que quand je me suis couché, il y a un paquebot qui arrivait très loin. Et quand je me suis réveillé, il était passé. Donc il a dû passer à côté. Et il y a un autre bateau qui m'appelait en même temps, qui s'approchait aussi.
Bon, là, il n'y a pas eu de problème.
Il n'y a pas eu de problème. Je suis réveillé et puis il m'avait vu. Donc ça va.
Mais c'est inquiétant, quoi.
Sur le coup, quand on se réveille, on se demande ce qu'on fait là.
En tout cas, le cercle polaire, finalement, vous l'atteignez avec cette île norvégienne, puis cet archipel de Lofoten, l'île C. Alors, Værøy.
C'est ça. Værøy. La prononciation.
Et alors, vous racontez, vous êtes depuis des jours dans le brouillard, un vrai brouillard, et tout d'un coup, la couleur arrive, l'île se montre à vous, c'est magique.
Bah, c'est un moment auquel on pense même pendant toute la préparation, le moment où on va voir la terre arriver après plusieurs jours de mer. Et c'est le moment qui marque la fin de la partie, la grande partie en mer. Donc effectivement, ce jour-là, c'était un midi, je crois. Ça faisait plusieurs jours que, en plus, la navigation était difficile. Il y avait beaucoup de mer, il y a eu du brouillard constant, et en plus, mon pilote automatique ne fonctionnait plus très bien à cause du nord magnétique qui était trop proche.
D'accord.
Et donc le bateau partait, en fait, il partait en n'importe comment, il fallait se coucher sur l'eau sans
expérimenter, quoi.
Sans explication. Et donc j'ai été content de voir cette terre arriver, de pouvoir m'amarrer et voir ces montagnes sortir du brouillard. C'était vraiment un instant magique. Et après, pouvoir m'amarrer dans un tout petit port de pêche à la morue avec les centaines de milliers de morues asséchées sur le port.
Vous avez fait des belles rencontres sur place. Vous restez quelques jours, alors repos, réparation, et puis vous repartez naviguer dans l'archipel. Et là encore, on a ces paysages. Vraiment, je conseille aux gens d'aller voir ce périple, toutes ces images à couper le souffle. Ça va être aussi à ce moment-là l'accueil à bord d'une chercheuse. C'est pas 3 mois en solitaire. Vous avez aussi des moments où vous allez accueillir notamment cette chercheuse du projet Plancton Planète pendant quelques jours. Donc voilà, est-ce que aujourd'hui, le bilan déjà scientifique, vous l'avez dit, l'essentiel c'était vraiment de travailler sur les outils.
C'est ça.
Donc vous savez que vous avez apporté quelque chose à l'équipe.
En fait, voilà, le but c'était vraiment d'utiliser le fait que je sois un néophyte pour tester ces outils, faire un peu une expédition crash test, voir ce qui va bien en mer, ce qu'il est possible de faire pour des gens qui ne connaissent pas le plancton à l'origine, ce qui est impossible à faire.
Il y a des choses impossibles à faire, ça vous l'avez testé.
Il y a des choses qui sont plus difficiles et donc ça permet d'avoir des pistes d'amélioration pour savoir quelles parties des outils sont encore à améliorer pour pouvoir les étendre à tous les utilisateurs de la mer, tous les usagers de la mer.
Donc, c'est très positif, quoi, votre...
Alors, c'était... qu'est-ce qu'on a eu comme retour ? Au niveau du planctoscope, donc le microscope à plancton, il y a des petits détails d'ergonomie qui restent à améliorer pour pouvoir gagner du temps, en fait, et que ce soit plus ergonomique en mer qu'on utilise en solitaire. Et on a aussi pu faire, du coup, avec la scientifique, donc Anna O'Donnell, on a pu faire des comparatifs entre les filets, parce qu'on avait un filet qui est utilisable à haute vitesse, donc à une vitesse de croisière pour un voilier, et un filet qui doit s'utiliser presque à l'arrêt, et on a pu comparer justement entre ces filets les différentes efficacités. Donc c'est très intéressant de faire ça aussi.
Passionnant. Il est 13h, j'aurais plein de questions à vous poser. Allez, une petite dernière, si je vous demande sans réfléchir, tout de suite maintenant, la plus belle image de cette expédition, qu'est-ce qui vous revient ?
Ah, c'était un coucher de soleil en mer d'Irlande, avec les dauphins autour du bateau, les oiseaux qui volent au large, les oiseaux du large qui volent en planant au ras de la houle, et le vent qui est quasiment en train de s'évanouir sur une mer d'huile, le bateau qui glisse sans un bruit, et juste le bruit des dauphins, l'étrave du bateau. Ça, c'était magique au coucher du soleil.
Hein.
Vraiment... un souvenir, je m'en souviendrai toute ma vie.
Ah bah écoutez, merci de le partager avec nous. Puis vraiment, bravo à vous, très belle exposition. Moi, je dis à Maurice Guérin, on va retenir ce nom. On va le réentendre, je pense, à venir. Vous avez peut-être d'autres projets, mais on en reparlera à Maurice, hein, évidemment. Continuez à bien étudier, à nous faire rêver avec vos expéditions. J'espère que c'est la première d'une longue série.
Bah, merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager le monde du plancton et de l'expédition avec vous.
Et bah, c'était un plaisir de partager. Merci à vous.
Merci Emmanuel Mesoret, merci à votre invité également. Et à retrouver en podcast, évidemment.
Exactement, dans 3 minutes. Hein.
Voilà, dans quelques minutes. Merci, bon appétit. C'est l'heure, 13h01. L'info arrive, Matmata, Rosaline aussi.